Interview.
1 Interview du jour.
Vous écoutez RDWA 107.5 FM et sur internet rdwa.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'instruction en famille. Il y a actuellement dans les tuyaux un projet de loi qui souhaite abolir le droit à l'instruction en famille. Pour discuter de tout ça, je reçois trois parents qui ont fait le choix de l'instruction en famille. Sophie, Pierrick et Elsa. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Salut.
Vous pouvez vous présenter chacun à votre tour.
Alors moi je suis Elsa, j'ai deux garçons, un qui a 12 ans et demi et un qui a 8 ans et demi. Ils sont en instruction en famille depuis 3 ans.
Je m'appelle Pierrick, j'ai deux filles, une qui a 9 ans et une qui a 4 ans. J'ai un petit bébé qui arrive bientôt aussi. Et on fait l'instruction en famille pour ma plus grande depuis qu'elle a quand même fait une année à mi-temps. Et après cette année à mi-temps en grande section de maternelle, on a fait le choix de faire l'instruction en famille. Et depuis, c'est chouette, ça se passe bien.
Et toi, Sophie ?
Voilà, bah donc moi j'ai trois enfants, un grand garçon de 9 ans qui a été... quelques heures à l'école, donc instruit en famille tout le temps, et un deuxième de 6 ans, qui n'a jamais été à l'école, et une petite fille de 1 an.
Mes enfants y ont été à l'école, jusqu'à le plus grand, il avait 9 ans quand il a arrêté l'école. Le plus petit, il a été 2 ans et demi en maternelle à mi-temps. Du coup, à un moment donné, notre grand a plus supporté d'aller à l'école. Il rentrait tous les soirs, il pleurait. Ça a duré et c'était vraiment la crise. C'était insupportable de le voir aussi malheureux, dans sa vie. Et on a fait, en cours d'année, c'était un peu juste avant les vacances de Noël, ce choix de dire on peut pas le laisser comme ça, et on l'a sorti de l'école. Le plus jeune a continué. Son année à la maternelle en mi-temps, puisqu'on n'avait pas fait le choix à ce moment-là de rester en instruction en famille. On a juste, la vie nous a imposé ça et le bien-être de nos enfants était extrêmement important et primordial sur le reste. Du coup, on a enlevé notre grand de l'école et on s'est donné l'année pour finir, pour voir comment ça se passait. Petit à petit on s'est aperçu que c'était un choix qui nous convenait tout à fait. À la fin de l'année, le plus jeune a rejoint ce choix qui est devenu un choix familial. Et on a vu notre enfant, notre grand en particulier, s'épanouir, être heureux, être plus calme, grâce à cet environnement. Et nous, on a petit à petit, appris. Au départ, on a commencé à essayer de faire l'école à la maison, de faire comme on faisait à l'école, mais à la maison puisque c'était notre modèle. Et petit à petit, à force de se renseigner, de rencontrer des gens, de lire des choses sur tout ce qui pouvait exister en matière d'apprentissage, on a quitté le format scolaire et on est allé de plus en plus vers ce qu'on appelle les apprentissages autonomes. Et donc un choix beaucoup plus libre dans les apprentissages et qui suit aussi beaucoup plus les envies de nos enfants et leurs forces et ce vers quoi ils ont envie d'aller.
Du coup, nous, on a fait ce choix parce que on avait toujours ça en tête et il y a le film, on a vu le film Être et devenir qui nous a beaucoup inspiré, donc on en reparlera à la fin de l'émission, mais ce film qui parle d'enfants non scolarisés a été vraiment inspirant pour nous. Il nous a beaucoup parlé. Ça, et Rencontre de l'écologie, il y a eu André Stern qui était passé un moment. Et pareil, c'était un moment où on hésitait, on devait faire ce choix, et pareil, ce personnage nous a quand même bien influencé, et nous a fait envie d'aller vers ce choix-là. Et Juliette, donc, elle a fait une année de grande section à mi-temps qui s'est pas trop mal passée, je dirais, ça allait, mais on avait envie de plus respecter son rythme. En fait, en faisant l'instruction en famille, on est beaucoup à l'écoute de l'enfant, de son rythme, de ses choix. Et donc, en faisant ça, on voit l'enfant s'épanouir. Et ça, c'est quelque part, c'est prendre nos responsabilités envers nos enfants et les suivre dans leurs apprentissages et les guider. Et ça, c'est vraiment beau à voir, à faire. C'est vraiment quelque chose de fort de se responsabiliser par rapport à ça. C'est vraiment nos enfants. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Et voilà, pour l'instant. Sophie ?
Oui, bah donc moi, l'histoire familiale autour de l'instruction en famille, ça a commencé parce que quand mon fils aîné était vraiment petit, j'avais rejoint un groupe de mamans de la Leche League, donc qui promeut l'allaitement maternel. Et donc dans ce groupe-là, il y avait déjà des familles qui pratiquaient l'instruction en famille avec leurs enfants plus grands. Du coup, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout. Enfin, je savais pas du tout que l'école pouvait se faire en dehors de l'école. Enfin, que les apprentissages ou l'instruction pouvaient se faire en dehors de l'école. Et vraiment, j'ai découvert effectivement, voilà, André Stern, donc cet auteur d'un livre qui s'appelle « Je ne suis jamais allée à l'école ». Voilà, qui est venu, on avait organisé une conférence, donc il avait témoigné justement des apprentissages autonomes, voilà, du fait qu'on puisse apprendre, que l'enfant est naturellement curieux, qu'il aime jouer, et que par le jeu et sa curiosité naturelle, il va vraiment, en fait, découvrir tout le monde qui l'entoure, et que du coup, ça va être l'occasion d'apprendre plein de choses, quoi, le monde auquel il est confronté. Mais en fait, j'étais effectivement entourée de ce milieu, d'amis qui avaient fait ce choix-là. Mais moi, j'étais pas forcément opposée à l'école. Donc, quand ça a été l'âge qu'il aille à l'école, il a essayé. Pour moi, c'était important qu'il puisse rester en étant en confiance. Et en fait, lui, ça l'impressionnait de se retrouver avec une maîtresse qu'il connaissait pas, avec plein d'enfants qui aussi eux étaient un peu dans l'inconfort d'être sans leurs parents. Et du coup,
il a essayé en maternelle ou
en maternelle, ouais, ouais.
Petite section.
Oui, c'est ça. En fait, il avait fait une année de crèche de plus, donc il allait avoir 4 ans quand il est rentré. Et voilà, donc j'ai vraiment essayé de l'accompagner pendant plusieurs semaines, mais en fait à chaque fois il repartait avec moi, la maîtresse était d'accord que je reste jusqu'à parfois 45 minutes dans la classe à lire des histoires à lui et aussi tous les enfants qui s'agglutinaient un peu autour de moi. Et puis vu que lui c'était à chaque fois il préférait rentrer avec moi et que moi je voulais absolument pas le laisser contre son gré. Du coup on a Et puis que j'avais quand même en tête que c'était possible de faire autrement. Du coup, on a fait ce choix-là. Et puis, en tout cas, c'est un choix qu'on a refait chaque année. Parce que, en fait, c'est ça aussi que je voulais dire ici. C'est que c'est un choix qui se repose au quotidien, en fait, dans les familles. C'est-à-dire qu'on se dit pas tout d'un coup, on se lève pas le matin en disant « Ah, c'est parti pour l'instruction en famille, toute la vie. » C'est quand même un choix qui est en questionnement permanent. La plupart des enfants, enfin des familles, voilà, c'est quand même un choix de vie, donc après, voilà, la vie, elle peut changer. Et du coup, voilà, on fait le choix, déjà chaque année, au moment de déclarer auprès des services concernés, c'est-à-dire l'éducation nationale et la mairie, chaque année, on déclare ça, donc à ce moment-là, moi, c'est un moment où je repose la question à mes enfants, de leur demander s'ils veulent qu'on continue de cette façon, ou s'ils souhaitent faire autre chose. Voilà.
Quel lien vous leur ouvrez sur le monde par ce choix de l'instruction en famille, pour accompagner leurs besoins, etc., comme vous mentionnez.
Alors je pense qu'on a, on va sûrement avoir des réponses où il y a des choses qui se rejoignent et puis des choses qui sont différentes, parce que chaque famille a sa propre organisation, et c'est tout l'intérêt aussi et le sens de l'instruction en famille, c'est qu'on peut s'adapter à chaque mode de vie. Et voilà, nous voilà, en particulier donc petit à petit on s'est éloigné d'un format scolaire et on est allé vers ce qu'on appelle les apprentissages autonomes, du coup en mettant au centre l'intérêt de l'enfant, voilà, ses aptitudes, les endroits vers lesquels il a envie d'aller, ses centres d'intérêt. Et du coup dans ma famille, on propose pas mal d'ateliers aux enfants, qui peuvent être avec des copains, qui peuvent être seuls, voilà, ça dépend. Bon, je peux donner des exemples. Par exemple, ils vont faire avec deux autres copains du cheval une fois par semaine quand c'est la belle saison, au printemps et à l'automne. Ils font du cirque toutes les semaines, ils font de la physique avec leur père, parce que c'est un passionné de physique élémentaire et d'anatomie. Ils vont faire du jardin, enfin le plus grand va faire du jardin avec le maraîcher à côté qui fait de la permaculture. On va faire du tricot, du feutrage, que sais-je encore, mille choses, se baigner, voyager. On va visiter, on fait régulièrement des visites au Clévaux, qui est, du coup on s'organise entre familles non scolarisantes pour avoir aussi des intervenants. Donc le Clévaux, c'est un centre où il y a des expositions régulièrement qui viennent de Paris, voilà.
C'est spécial pour les enfants, pour les...
Ouais. Et voilà, donc on a, en fait, ils ont une multitude d'activités, comme ils ont du temps et qu'ils sont à leur rythme, voilà, ils sont pas fatigués, du coup ils sont avides de chaque activité. Là, c'est depuis 2 ans, nous on a un cours d'anglais avec une amie qui leur donne un cours d'anglais, c'est la fête à chaque fois. Mon grand de 12 ans et demi, quand c'est l'été, il en a marre parce que les activités s'arrêtent et qu'il a qu'une envie, c'est d'apprendre et d'être voilà, cet environnement, et du coup, il y a un appétit, un goût de l'apprentissage qui est énorme. Et voilà, donc nous, on est vraiment là-dedans et à chercher à mettre des choses en place, à leur proposer, voilà, des... Et tout ça, en même temps, à leur rythme, en laissant aussi quand même des espaces vides, des espaces de jeu. Voilà, nous, on vit dans un collectif, dans un habitat groupé, du coup ils ont aussi beaucoup d'interactions avec d'autres familles, d'autres enfants de différents âges. Ils passent aussi beaucoup de temps dans le jardin à jouer, à courir, à jouer à chat, et voilà.
Ça fait envie.
Ouais, Pierre, vas-y.
Et ben du coup, nous oui, ça se rejoint un peu. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'on essaye de garder l'enthousiasme des enfants, cette espèce de joie qu'ils ont toujours à découvrir mille et une choses, mille et une petites bêtes, mille et un truc qui se passe dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est assez fantastique au quotidien, en fait, à préserver cet enthousiasme et à garder leur joie en eux et à garder leur rythme. Et donc, effectivement, on est toujours à proposer des activités qui leur font envie. Ma grande, l'année dernière, elle faisait 8 activités différentes, piano, 3 cours de danse différents, théâtre d'impro, qu'est-ce que c'est? Bon voilà, elle faisait plein d'activités qui l'enthousiasment, mais effectivement, quand c'est les vacances, oh là là, c'est pénible, les vacances, y'a rien à faire, c'est plus dans la... Donc c'est vraiment l'inverse qui se passe, c'est assez rigolo, et puis c'est à nous en tant que parents aussi à les guider vers des choix, des envies, à les nourrir en fait dans cette énergie là d'apprendre et d'être créatif, et de, parce que des fois il y a des moments où il se passe rien, hein, je m'ennuie machin, bah c'est créatif, la vie des fois c'est, il faut prendre sa vie en main un peu et essayer de, c'est ça aussi que moi ce que je trouve important dans la non-sco, c'est de la non-scolarisation, la non-sco, c'est d'être créatif pour sa vie, quoi, de prendre sa vie en main, et c'est toi qui décides de ce que tu fais, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper important, d'être dans cet aspect-là de responsabilité, en fait, de sa vie, encore une fois. Et donc ça, c'est très important, je trouve. Et du coup, bah, on est toujours à amener des nouvelles choses, des nouveaux supports. Alors là, on parle beaucoup de trucs plaisir, qui sont super, hein. Puis il y a aussi tous les apprentissages un peu plus formels, entre guillemets. Tout ce qui est apprendre à lire, à compter, etc. Bah, c'est pareil, on est toujours à essayer de donner des supports, donner l'envie de lire, donner l'envie d'écrire, et toujours dans le jeu et le plaisir. C'est toujours évident, hein, c'est sûr. Hein, ça amène beaucoup de réflexions aussi personnellement. Qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le laisse complètement faire, est-ce que je prends un peu, ok, allez, là, on fait un peu d'écriture, un peu de lecture. Et en fait, en nourrissant ça, au bout d'un moment, on trouve des jeux, des trucs qui les intéressent, et là, ça part à fond. Ma grande, elle a appris à lire, tout ça, et maintenant, elle dévore des gros bouquins, et je suis tellement fier de ça. Et c'est génial, et la petite, bah, du coup, elle voit ça, et elle se dit, à 4 ans, et bah, elle commence à déchiffrer, etc. Enfin, c'est un processus.
Par exemple, pour l'apprentissage de la lecture, t'as utilisé une méthode particulière, ou l'apprend à la fin le...
C'est beaucoup inspiré de la méthode Montessori. C'est quand même quelque chose qui marche bien. Il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais en tout cas, on s'est inspiré de celle-là. Donc, c'est d'apprendre les sons des lettres et petit à petit déchiffrer, mais par les sons, pas par les noms. Tu vois. B, c'est pas B, c'est B. C'est pas B. Enfin, tu vois, chaque lettre a son son comme ça. Et à force, bah, de répéter, hein, on est toujours dans. Il faut toujours répéter. Tous les soirs, on regarde le livre, les sons, on fait les sons. Et petit à petit, ça... Et comme les enfants, ils sont contents de faire ça, bien en forme, du coup, ils apprennent très vite. Du coup, ça, t'as pas besoin de faire ça toute la journée, en fait. Tu fais ça une heure, déjà, ça rentre tout de suite, quoi. Et puis, y a pas de samedi, dimanche, de machin, c'est... Ok, là, j'ai envie de lire, bah, vas-y, on lit, enfin... Mais toujours à leur rythme comme ça, alors que s'adapter, c'est pas toujours évident, bien sûr, hein, des vies professionnelles et personnelles aussi, donc mais en tout cas, on est toujours présent pour les aider à ce niveau-là. Ouais. Voilà.
Sophie ?
Eh ben oui, moi, oui, la question c'était qu'est-ce qu'on leur apportait dans les apprentissages, t'avais un peu dit ça. En tout cas,
tu leur apportes l'apprentissage et et comment tu les ouvres sur le savoir, le monde en général.
Et bien du coup, moi, avant de commencer cette aventure, j'avais déjà des amis qui faisaient l'instruction en famille, mais qui avaient été formés, donc qui avaient suivi une formation Montessori pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans avant de se lancer dans l'instruction en famille auprès de leurs enfants. C'était même une amie qui était institutrice. Alors, quand je voyais ça, je disais, mais moi, je pourrais jamais faire ça, je suis pas instit. Et en fait, la philosophie des apprentissages autonomes, c'est vraiment de pas du tout se placer comme enseignant et comme sachant, mais plutôt de partir de l'intérêt de l'enfant. Et d'aller ensuite chercher chercher le savoir en fonction de ce qui l'intéresse. Donc on n'est pas je sais bien que je ne sais pas tout, et du coup ce qui est intéressant, c'est plutôt la démarche d'aller chercher un livre à la médiathèque, une vidéo sur internet, un intervenant qui connaît très bien telle chose, un spécialiste, etc. Donc ça part vraiment de la motivation et de l'intérêt de l'enfant. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce qui est important dans ce choix, c'est que je pense que si un enfant a confiance en lui, parce que j'ai l'impression que dans cette façon de gérer les apprentissages, on est quand même assez souvent sur un élan positif, de lien positif avec l'apprentissage, et que du coup on valorise, en fait, enfin, il n'y a pas d'échec, on n'est pas dans l'échec dans ces apprentissages là on est toujours, on découvre, et puis comme on est les enfants sont on est avec des enfants d'âge différent, avec aussi des adultes, moi il y a plein de choses que j'apprends en même temps que mes enfants, et du coup voilà, c'est vraiment un élan vraiment vers la vie, vers le savoir, qui est positif, et du coup pour moi ça permet de construire cette confiance en soi. Et moi, je suis vraiment persuadée que un enfant qui a confiance en lui va ensuite aller vers plein d'apprentissages juste parce qu'il se sent compétent, quoi, et que du coup il peut tout apprendre juste parce qu'il se sent bien et qu'il pense qu'il peut y arriver. Et ça, je voulais le dire. Après, là, je vous ai entendu tous les deux parler des activités de vos enfants. Moi, mes enfants, ils avaient quasiment pas d'activités jusqu'à cette année. Là, c'est la première année où ils font des activités. Alors, ils sont un peu plus jeunes que les tiens, Elsa. Mais nous, on a beaucoup de temps. Du temps aussi où il n'y a rien qui se passe forcément. On n'a pas l'impression d'être... qu'on va apporter... le livre sur l'histoire de l'Europe des 1800 à nos jours. Enfin, moi, il y a plein de temps aussi où justement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a de l'ennui. Et en fait, dans l'ennui, dans le rien qui se passe, dans même les interactions, ouais, en ce moment, ils sont très, très, très attirés par les relations avec leurs copains, comme on habite en immeuble. Ben, ils ont beaucoup de copains, et même si ces copains vont souvent à l'école, ben, on va dire à partir de 4h30, les mercredis, les samedis, dimanches, voilà, mais ils sont vraiment très attirés vers le fait d'être avec d'autres copains, dont on pourra imaginer qu'ils apprennent rien, en fait, non, ils apprennent des tonnes de choses à être les uns avec les autres, parce que chacun a son univers, ils sont en train de discuter en permanence. Et, du coup, il y a aussi ça, enfin, moi, en tout cas, dans ce que je vis d'instruction avec mes enfants, il y a aussi plein d'apprentissages qui se font dans des temps complètement vides où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais en fait, ah bah non, l'enfant il va, bah parce qu'il s'ennuie, il va aller voilà, construire un truc en Lego, et ben ouais, peut-être qu'on va peut-être pas capter forcément sur le moment ce qu'il a appris, mais en fait on apprend tout le temps, enfin même nous, il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Thierry Pardo, c'est un français qui a migré au Canada, qui fait plein de vidéos très intéressantes sur les apprentissages. Enfin, il a même fait une thèse en sciences de l'éducation sur la piraterie éducative. Et lui, il disait, en fait, si aujourd'hui je vous dis n'apprenez rien, c'est pas possible, en fait. On est sans cesse en mouvement vers les apprentissages. Et je vais terminer parce que j'ai pas envie d'être trop longue là-dessus, mais je voulais aussi dire que cette aventure, en fait, ça nous invite, enfin, c'est effectivement un choix de vie familiale, et c'est aussi, enfin, du coup, nous-mêmes, on se déscolarise, hein. C'est-à-dire qu'on entre aussi dans les apprentissages un peu comme nos enfants. Enfin, moi, je me suis aussi demandé, ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma journée, et du coup, au lieu de me dire, oui, il faut faire ci parce que, enfin, il faut manger tout de suite le matin parce que c'est comme ça, et puis après faut aller au travail, et puis aller en tout cas, moi ça m'a amené à me reposer les questions de qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait envie dans ma journée. Et donc c'est aussi ça, c'est que je trouve que, parce que moi j'ai fait le choix de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Pendant les premières années, je travaillais encore à temps partiel. Et là, ça fait un an et demi que vraiment je travaille plus, aussi parce que j'ai une appétit. Mais le temps que je passais avec mes enfants, j'avais aussi besoin de me nourrir moi. Et du coup, c'était aussi, quel est mon élan à moi? Et vous, c'est quoi votre élan? Et puis, bah, des fois, on va plutôt suivre l'élan de mon fils aîné, parce qu'il a envie d'aller à la rivière. Et puis, moi, j'ai envie de faire... de faire autre chose, d'aller plutôt voir les amis, de faire tout ça. Et du coup, j'avais envie de témoigner du fait que nous-mêmes, en fait, ça change notre façon d'être au monde. Voilà.
Oui. Par rapport à ça, en fait, moi, ce que je trouve qui a été très fort quand on a quitté l'école avec les enfants, parce que j'ai l'impression d'avoir aussi quitté l'école en même temps, c'est aussi de se reposer la question de la hiérarchie des apprentissages, c'est-à-dire on est vraiment dans une culture où apprendre à lire, apprendre à compter, c'est vraiment ça passe avant tout, c'est-à-dire c'est plus valable que faire de la musique. Et en fait, je trouve que quand on est dans cette démarche, d'un coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus égal. aller se baigner à la rivière, c'est aussi valable que aller apprendre à compter. Enfin voilà. Et ça repose vraiment ces questions-là de la hiérarchie qui est très 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 valorisée dans le système scolaire.
Et pour sortir de cette hiérarchie ou parfois des contraintes qu'on a dans le quotidien, comment vous gérez un peu quelques mots sur l'organisation du quotidien, le rôle de papa, maman, la famille, le travail, les projets perso, enfin un peu tout ça. C'est une grande question, hein. Quelques mots un peu là-dessus.
Ouais. Eh ben bon, nous on est dans le cirque et dans la danse avec du coup mon compagnon et moi. Donc on a un rythme de vie décalé par rapport au rythme de l'école. Et on travaille particulièrement les mercredis, les week-ends, pendant les vacances. Donc on a des périodes où on travaille beaucoup et des périodes où on travaille moins. Donc comme mon compagnon travaille plus que moi, en tout cas sur des périodes. Et du coup, on a trouvé un équilibre comme ça. Donc nous, on est plutôt assez disponible sur les journées, et on a d'autres temps où on est pas mal pris. Nos enfants grandissant, on les implique de plus en plus en fait dans notre travail, dans nos voilà, ils viennent prendre des cours de cirque avec nous, ils participent. Voilà, il y a le plus grand de mes enfants, il est assistant sur un de mes cours de cirque pour des plus jeunes. Petit à petit, on les implique dans nos métiers. Et après, sinon, on a aussi un fonctionnement où on se relaie sur des temps pour avoir aussi des temps disponibles pour nous, pour avancer dans nos métiers et puis dans notre épanouissement aussi personnel, dont on a besoin aussi par moment, en dehors aussi de la vie familiale. Voilà quoi. Donc, avec notre métier, notre manière de vivre, ça marche plutôt bien quoi.
Et pour vous?
C'est vrai que c'est des choix de vie. C'est une organisation à prendre. C'est sûr que les deux parents ne peuvent pas aller au travail tous les deux en même temps. Enfin, si on fait ce choix de l'instruction en famille, c'est clair qu'il faut faire des décisions, prendre des choix, quoi. Et alors nous, comme nous, on s'organise. C'est vraiment ça le truc, on alterne. Un coup c'est moi qui vais bosser. Si j'ai un projet, un truc, peut-être pendant un mois ou deux, je suis pas beaucoup à la maison. Enfin, la journée, quoi. Et c'est ma compagne qui prend le relais. Et puis après, ça peut être l'inverse. On est des phases d'alternance comme ça. Donc des fois, ça demande beaucoup d'organisation. Mais en tout cas, on arrive à mener plein de projets en même temps que l'instruction en famille. Quoi. Ça prend pas tout notre temps. On arrive à avoir une vie professionnelle, à mener des projets d'autre part. Et puis comme tu dis Elsa, on les inclut beaucoup. Entre nous, on plante des arbres, on fait un potager, les enfants sont toujours là pour nous aider à faire ça. Et c'est super aussi, enfin on les inclut vachement. Et voilà, faut vraiment s'organiser au niveau professionnel si on veut garder un travail tous les deux, où il y en a un qui travaille et l'autre non, et puis après on échange, et puis après on rééchange, enfin voilà. On est toujours dans une alternance comme ça pour essayer de trouver, au bout d'un moment, il y en a un qui est quand même marre d'être avec les enfants à la maison, ça arrive, hein. C'est normal. Et du coup là, il faut, ok, on alterne, on change, et puis on trouve d'autres solutions, et on est toujours sur un fil comme ça. On tombe un peu, il faut toujours remettre en place l'organisation régulièrement. Bon, après, les enfants grandissent, donc ça pèse un peu, mais quand ils sont petits, on est toujours sur ce mode d'organisation. Donc,
Alors, du coup, moi, ça me donnait envie de rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'on était, qu'on en pouvait en avoir marre d'être avec les enfants à la maison. Alors, c'est juste, moi, je suis séparée du papa de mes deux garçons depuis plusieurs années. Du coup, effectivement, j'avais l'impression que c'était une image que les personnes peuvent avoir, que l'instruction en famille, ça se fait à la maison, etc. Et en fait, moi, comme j'étais seule adulte avec mes deux enfants, c'est sûr que à la maison avec mes enfants, ça va de temps en temps, mais j'ai quand même vraiment besoin de rencontrer d'autres adultes. Et du coup, je voulais témoigner que moi, ma situation, mais aussi plein de familles qui pratiquent l'instruction en famille, on est rarement à la maison. Enfin, ça arrive, bien sûr, qu'on soit à la maison, mais on est dans le monde. On va se rencontrer entre familles, on voyage, on sort juste se promener, on va rencontrer des personnes de tous horizons. On va pas forcément rencontrer que des familles qui font l'instruction en famille. On peut aussi voyager, rencontrer d'autres familles, rencontrer des personnes âgées. Tout ce qui existe dans la vie. Et du coup, après, je vais quand même parler de moi, de mon organisation personnelle. Alors là, oui, ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans que je suis à Die. Mais on va dire que, avant, j'étais dans l'Isère. Et moi, je travaillais, du coup, à temps partiel, à 50%. Et le papa, on s'est séparés, mais lui, il travaillait aussi à 70%. Et comme il est infirmier, il avait aussi un temps décalé, il travaille le week-end, etc. Et du coup, en travaillant tous les deux, moi 50% et lui 70%, 80% je crois, finalement, il n'y avait que peut-être 2 ou 3 matinées sur 1 mois où on avait besoin de demander de l'aide de quelqu'un pour s'occuper de nos enfants. Donc, du coup, on a pu quand même travailler tous les deux, même en étant séparés. Je voulais le dire parce qu'il y a plein de familles séparées qui disent que c'est pas possible et tout ça. Je pense qu'effectivement, c'est une organisation.
Oui, c'est vraiment fait. Vraiment s'organiser.
Mais c'est possible. C'est possible.
Mais donc là, toutes ces belles choses que vous construisez avec vos enfants, il y a moyen que ça puisse s'arrêter, si je comprends bien, avec ce projet de loi dans les tuyaux, où ça puisse compliquer nettement la donne. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet de loi ?
Je veux juste dire quand même, puisqu'on est quand même dans le quotidien et tout ça, de ce vendredi d'il y a 2 semaines ou 10 jours où on a entendu sur France Inter le président faire son annonce que l'instruction en famille allait être interdite, qui a été annoncé en plus comme si c'était déjà passé. Nous, on a écouté France Inter, on avait nos enfants qui étaient là, et en particulier donc le plus grand qui a entendu ça. Bon, moi, je me suis effondrée, hein, j'ai pleuré. Et pour lui, ça a été terrible, ça a été d'une violence inouïe. Il s'est mis à pleurer. Lui, il a l'expérience de l'école. Il en est sorti consciemment. On l'a soutenu dans ce projet. Et je veux dire, d'un coup, c'est sa vie qui s'écroulait, quoi. Donc on lui a expliqué, on a pris le temps de dire, c'est encore pas fait, etc. Mais à un moment, il faut mesurer aussi, l'impact de cette annonce qui se fait sur des gens qui ont construit une vie entière autour d'un projet. Et l'instruction en famille fait vraiment partie d'un projet de vie. C'est pas juste, on met les enfants un coup là. Non, c'est toute la vie familiale qui s'organise autour de ça. On construit beaucoup de choses avec ça, on a des projections, et d'un coup, on a une annonce qui nous dit, votre projet de vie, il est pas valable, et on va vous dire, c'est comme ça, et c'est comme ça maintenant, et on va casser votre projet de vie. Et on a en face, pas des enfants, c'est des êtres humains, des êtres vivants, qui ont des sentiments, des émotions, comme nous tous, et on peut pas, d'un coup, décider comme ça. En fait, votre vie, elle est pas valable. Votre vie, c'est pas comme ça que vous devez la vivre. Vous allez la vivre autrement. Alors que la loi, jusque-là, a proposé un cadre dans lequel on pouvait faire ça. Donc j'avais quand même envie de le dire, même si on est dans la partie quotidienne, parce que l'annonce a été d'une violence extrême dans notre quotidien. Et je pense qu'on est vraiment pas les seuls pour avoir vécu ça très très fort. Quoi.
Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire que en fait, l'instruction en famille, elle est réglementée. Il y a tout un cadre légal qui légifère, comment ça doit se passer, et que effectivement, dans le discours d'Emmanuel Macron, ça donne une image qui est très éloignée de la majorité des familles qui pratiquent l'instruction en famille, et surtout que il y a un cadre légal, c'est-à-dire que actuellement, bon, parce qu'il y a un cadre qui a été modifié, il y a plein de lois qui ont restreint et contrôlé de plus en plus l'instruction en famille ces dernières années, mais donc actuellement le cadre de l'instruction en famille, c'est donc un mode déclaratif, c'est-à-dire que tout le monde peut déclarer son enfant instruit en famille, c'est pas sur autorisation de l'État, mais c'est déclaratif, c'est à la demande des familles. Donc une fois qu'on a fait une déclaration, donc on doit envoyer en début d'année scolaire à la fois à l'inspection académique donc de l'éducation nationale, à la fois à la mairie de notre domicile, que suite à cette déclaration du point de vue pédagogique, il y a l'inspecteur et une conseillère pédagogique hein, qui vont nous convoquer, enfin qui convoquent l'enfant avec les deux parents ou un des parents, soit dans leur bureau, soit ils viennent chez nous, une fois par an, pour voilà au moins une heure à peu près, où ils viennent vérifier qu'il y a vraiment un environnement qui permet l'apprentissage. Et ça, c'est donc d'année en année, ils vérifient qu'il y a une progression vers le socle commun de connaissances qui doit être acquis à 16 ans. Il y a aussi des étapes intermédiaires au niveau des connaissances. Ils essayent de caler un petit peu sur des étapes en se basant sur l'école. Enfin voilà, sur les acquisitions qui sont en milieu scolaire, et ils essayent de voir si nos enfants voilà, ont aussi ces apprentissages-là. Et donc ils viennent, il y a un inspecteur académique plus une conseillère pédagogique ou un conseiller pédagogique qui viennent une fois par an voilà, contrôler l'enfant. Ensuite, la mairie, donc quelqu'un de la mairie vient une fois tous les deux ans, en général au domicile, aussi demander pour quelles raisons la famille fait ce choix, quelle est l'organisation de la famille, qui est en charge de l'instruction. Et enfin, ils regardent aussi s'il y a des adaptations à faire en termes de santé en vue du contrôle pédagogique. Mais donc c'est extrêmement réglementé, on est très contrôlé, voilà, par l'éducation nationale et la mairie.
Et ces dernières années, les contrôles, ils se sont amplifiés hein, chaque année, avec des décrets.
Avant, on avait une certaine liberté jusqu'à 16 ans. C'est ça, à peu près. On pouvait un peu choisir quand l'enfant apprenait à lire, quand il apprenait à compter, etc. Mais il fallait que, autour de 16 ans, il sache un nombre de choses, hein, c'est un peu commun. Et maintenant, ce qui se fait, c'est que par cycle de 2 ou 3 ans, donc c'est CP, CE1, CE2.
C'est 3 ans.
C'est 3 ans, et après c'est.
Jusqu'à la fin de 6 ans.
Ouais. Voilà, par cycle, il faut savoir telle et telle chose. Et bon, des fois, il y a une certaine souplesse selon les gens, et des fois, c'est un peu plus sévère. Voilà, c'est encore un peu aléatoire. Et c'est difficile de se caler sur ce rythme-là scolaire. Pour nous en tant que parents d'avoir ce rythme là, parce que si on fait ce choix là, c'est pour respecter le rythme de l'enfant, et du coup des fois on est un peu décalé, et ça c'est dur hein. C'est un peu dur des fois avec l'éducation nationale.
Oui, et puis moi ça me fait penser à ce que tu disais Elsa et ce que Jérôme ton compagnon disait juste hier, c'est qu'en fait les enfants nos enfants ils apprennent dans des domaines hyper variés, effectivement. Ils savent tout un tas de choses qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Après, c'est sûr aussi que, du coup, ils savent peut-être parfois moins les apprentissages scolaires habituels. Ils sont peut-être pas aussi avancés dans certains domaines. Mais par contre, ils savent aussi plein d'autres choses, quoi.
Et du coup, ça, voilà, l'histoire, voilà. Donc, on est extrêmement contrôlé, en fait, bien plus qu'un enfant scolarisé, puisque personne n'ira jamais, à moins qu'il y ait une enquête sociale ou je ne sais quoi, et dans ce cas-là c'est un cadre bien particulier, aucun enfant scolarisé ne verra le maire ou un représentant de la mairie venir chez lui pour voir comment il vit et que le quotidien de l'enfant est adapté pour des apprentissages. Donc ça, c'est nous, il y a que les gens qui pratiquent l'instruction en famille qui ont droit à ça. Les enfants ne sont pas inspectés un par un chaque année à tous les âges non plus par un inspecteur académique qui n'est pas un professeur ou un instituteur, qui est un inspecteur académique, donc c'est la hiérarchie au-dessus. Voilà, et du coup, avec tous ces contrôles-là, donc j'en reviens juste au projet de loi, hein, qui a fait un amalgame très fort entre l'intégrisme, les terroristes et l'instruction en famille. En fait, c'est un amalgame qui est absolument faux. On est surveillé, on est contrôlé. Si jamais il y avait risque d'extrémisme religieux ou autre, je vois pas comment ils ne pourraient pas s'en apercevoir avec tous les contrôles qu'on a. Donc en fait, c'est un amalgame qui est complètement faux. Et bon, pour aller un peu plus loin, on voit bien qu'en fait, tous les terroristes ont été arrêtés, en fait, sortent de l'école de la République et non pas de l'instruction en famille. Ça, c'est aussi une enquête qui a été menée. Voilà, sur cette question-là, quoi.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut, enfin, on peut aussi, enfin, je voulais rajouter sur le cadre légal actuel. C'est-à-dire que si un enfant, si par exemple l'inspecteur ou la mairie a un doute quand ils viennent au domicile, à la fois sur les connaissances ou alors sur l'environnement d'apprentissage, ils peuvent demander un second contrôle. Et du coup, il y a des second contrôles qui se font même de plus en plus, même voilà, ça, plutôt sur les apprentissages, mais en tout cas, ils peuvent revenir à ce moment-là, revenir. Enfin voilà, on est vraiment
Il peut y avoir une injonction d'aller à l'école aussi, ils ont ce pouvoir-là de dire ok, là ça va pas, tu vas à l'école, point barre. Mmh.
Ouais. Et du coup, c'est sûr que, par rapport à l'annonce d'Emmanuel Macron, effectivement, il n'y a aucun lien qui a été fait entre radicalisation islamiste et instruction en famille. L'instruction en famille, elle est très suivie. Même du point de vue des sectes, il y a la Miviludes, c'est une organisation gouvernementale qui s'intéresse aux dérives sectaires et qui chaque année fait des rapports et qui montre qu'il n'y a absolument pas de dérives sectaires dans l'instruction en famille. Donc voilà, c'est quand même très contrôlé, c'est vraiment un cadre très contrôlé. Et effectivement, voilà, du coup, ils sont... Là, c'est présenté comme un problème très important, qui du coup, à mon avis, il se trompe de cible. Voilà, c'est pas à mon sens, c'est pas la bonne solution au problème qu'il rencontre là de radicalisation islamiste. Et que par contre, effectivement, parce que ce qui était aussi montré, c'était que ça augmentait. Il y avait une augmentation importante du nombre d'enfants instruits en famille. Ça, je pense que je peux en dire deux mots, c'est que bon, d'une part, les pédagogies alternatives plaisent à de plus en plus de familles. Hein, voilà. Il y a aussi le fait que, effectivement, l'année dernière, il y a déjà une loi qui a élargi l'obligation d'instruction de 3 à 18 ans. Donc là, le 16-18 n'est pas encore passé, c'est pas encore appliqué. Mais du coup, effectivement, l'augmentation du nombre d'enfants instruits en famille s'explique aussi par le fait que dès 3 ans, alors qu'avant c'était à partir de 6 ans, dès 3 ans les enfants doivent être à l'école, enfin instruits, et du coup il y en a qui choisissent l'instruction en famille. Et enfin, il y a eu une explosion entre 2018-2019 et 2019-2020 qui est liée au confinement. Effectivement, pour les raisons sanitaires, pour les raisons de familles qui veulent pas imposer le port du masque, ou alors qui ont peur de la promiscuité pour justement tomber malade, qui ont fait le choix de passer par l'instruction en famille du fait du contexte sanitaire exceptionnel.
Voilà. Mais malgré cette exponentialité du nombre d'enfants instruits en famille, ça reste quand même une minorité. Je sais plus toi tu sais le pourcentage, Sophie?
C'est oui, on est à 50 000.
Alors,
c'est
50 000, mais ça représente 0,5%.
Oui,
voilà. Donc, en sachant qu'il y a une partie d'enfants qui sont des enfants malades et qui sont instruits en famille aussi pour ces raisons-là. Donc, en fait, le choix d'instruire pour des raisons idéologiques ou philosophiques, ou alors parce que les enfants étaient subi des violences est extrêmement extrêmement minoritaire. Ça représente quelques milliers de familles sur la France entière. Du coup, prendre cette minorité là pour cible, c'est quand même Incompréhensible.
Voilà. Oui, et moi je voulais revenir juste sur ce que tu disais, Elsa. C'est qu'en fait, c'est vraiment des choix familiaux, c'est pas juste... Alors non, je voulais quand même dire aussi, parce qu'il y a un chercheur qui s'appelle Philippe Bongrand, qui est sociologue, qui fait partie d'une équipe qui ont un budget alloué là pour faire de la recherche sur l'insertion en famille à Paris, et qui expliquait là qu'en fait, en étudiant là sur 2016-2017, il s'était rendu compte que la moitié des enfants n'étaient instruits en famille que pour une année. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de familles qui essayent en fait, qui essayent l'instruction en famille parce que peut-être ils sont en voyage, peut-être ils ont déménagé, peut-être que ça fait un petit break, ils essayent, mais que il y a aussi plein de gens qui essayent juste pour pour voir ce que ça donne, mais qui sont pas instruits en famille, pour toute la vie, avec des idées extrémistes, etc. Ça peut être. Et par contre, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que c'est vrai que c'est un choix familial. Enfin, on a organisé ensuite toute notre famille autour de ce choix, et que ça nous plaît aussi. Enfin, ça devient vraiment un choix de vie aussi pour nous, quoi. Et je me souviens il y a un journaliste d'une autre radio qui m'a interviewé en me disant qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, si jamais ça passe cette fois, vous serez déçu. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment de la déception, non, c'est que, enfin, je serais révoltée, en fait. Enfin, c'est juste que non, en fait, là, effectivement, enfin, toi, Elsa, tu parles de ton enfant qui était abasourdi, choqué, et bien, mais c'est aussi les parents, enfin, c'est des familles, on est aussi attachés à cette vie avec nos enfants, à ce temps pris ensemble avec nos enfants, et... je me souviens qu'il y a une famille dans Être et Devenir qui dit, mais ce temps-là, c'est ce qu'on peut offrir à nos enfants. Mais quelle joie, en fait, d'avoir ce temps avec nos enfants. Quand ils seront plus grands, ils feront leur vie, puis nous aussi, on fera aussi notre vie à ce moment-là. Mais là, on partage quelque chose de génial, quoi.
Et tout ça, ça deviendrait illégal.
Mais ouais, là, voilà. Je trouve qu'on touche une liberté fondamentale qu'on a tous droit, quoi. Rien que d'enlever... d'aller à l'école et d'enlever le choix de ne pas y aller, je trouve ça terrible. Si à un moment ça se passe mal à l'école, mais pour n'importe qui.
Avoir le droit de faire une pause.
Droit, même 6 mois, 1 an, faire une petite pause et revenir après, pourquoi pas, ou même nos enfants s'ils ont envie d'y aller. Mais qu'on ait ce choix, et c'est vraiment une liberté fondamentale qu'on nous enlève et qui est très dure.
Qu'on ne va pas nous enlever, qui est inscrite dans la Constitution. On va se défendre,
si on veut justement se mobiliser ou faire entendre sa voix, son témoignage, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent IEF, instruction en famille, ou en tant que parent même qui ne pratique pas l'instruction en famille,
ou même sans être parent, rien de tout ça, personne,
citoyen, ouais, autre.
Moi, j'avais juste envie avant qu'on communique des informations pour ça. Envie de finir sur quand même les impacts de cette loi. Enfin, j'avais envie de dire deux choses. Que souvent, en instruction en famille, on est considéré comme des marginaux. Que moi, je pense, je me sens pas du tout marginale. Je me sens extrêmement impliquée dans la vie de mon pays ou dans la vie de mon village, et que j'y fais plein de choses, et que nos enfants sont pas du tout en dehors du système. Souvent, on dit qu'on est hors système. C'est complètement faux. Ils pratiquent des tas d'activités qui sont dans le village. Moi, j'ai failli me présenter au conseil municipal du village dans lequel je vis. On est très impliqués, on n'est pas du tout en dehors de la société, et le choix de faire ça n'est pas de se mettre en dehors de la société, mais d'accepter une diversité, une liberté qui existe et auquel on a droit. D'autre part, je voulais parler aussi des conséquences en fait de cette loi, qui, en fait, on est des familles juste normales, hein. On travaille, on s'occupe de nos enfants, on a des vies comme tout un chacun. Et là, d'un coup, en fait, si cette loi passe, on va devenir des criminels. C'est-à-dire que la menace, ça va être l'amende, la menace, ça va être les gendarmes qui vont venir et les services sociaux qui nous enlèveront nos enfants, et des gens qui risquent de partir à l'étranger parce qu'en fait, ce sera inacceptable. Et je veux dire, moi, je me suis engagée auprès de ma famille, auprès de mes enfants, dans ce choix, et qui est un choix qui est en effet inscrit dans la Constitution, qui fait partie des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du droit des enfants de mettre en priorité leur bien-être à chacun. Et il n'est pas question que, en tout cas pour ma part, j'obéisse à une loi que je peux pas reconnaître comme honnête, comme juste. Voilà. Donc en fait, on va mettre quelques milliers de familles dans une inégalité. On va les considérer comme des criminels, alors que en fait, on n'a rien fait, quoi. Et donc ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Enfin, c'est juste pour dire que c'est pas juste un truc comme ça qui va passer, quoi. Ça atteint des choses. Je pense qu'on a du mal à imaginer, mais qui peuvent être vraiment là. Voilà, c'était juste pour finir sur ça.
Donc ouais, si jamais d'autres personnes, on va mettre vos contacts sur le lien ou sous le lien, on peut télécharger l'émission sur le site de rdwa.fr. Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut faire, des personnes à contacter qu'on peut à notre échelle?
Oui, ouais, alors donc, moi je voulais quand même, effectivement, on va mettre sur le site de Radio Ziwa des ressources, des liens pour nous contacter si vous avez envie de nous rencontrer ou de nous aider. Ensuite, moi, je fais partie d'une association, la plus ancienne association d'instruction famille française qui s'appelle Les Enfants d'Abord, et qui, effectivement, on est en train de se mobiliser pour voilà, vraiment informer sur l'instruction famille. C'est ce qu'on fait aussi à la radio là aujourd'hui, c'est que on veut vous montrer vraiment ce que c'est et que les préjugés et les idées préconçues qu'on ait soient déconstruites. Donc le mot d'ordre, les consignes actuellement de l'association, c'est de contacter les sénateurs et les députés dès maintenant pour les rencontrer, pour leur dire voilà qu'on n'est pas, enfin, qui on est, leur dire effectivement que nous, on souhaite garder notre liberté constitutionnelle d'instruire nos enfants. Donc, et ça, tout le monde peut le faire, envoyer un courrier à son sénateur, aux députés de sa circonscription, ou téléphoner pour prendre un rendez-vous, voilà, c'est possible. L'association Les Enfants d'Abord, elle a aussi un site internet où vous pouvez avoir tout un tas de ressources pour comprendre ce qu'est l'institution famille. Il y a aussi d'autres associations, l'AIA ou CISE, qui sont d'autres associations qui soutiennent l'institution famille, qui ont aussi des sites internet. Voilà, mais déjà aussi d'en parler autour de vous, de faire suivre le podcast de cette émission à vos proches, pour que en fait il y ait plus de connaissances, en fait, parce que souvent c'est la méconnaissance qui va vers la radicalisation et l'extrémisme. Donc faisons connaître l'instruction en famille, parce que en tout cas nous, on a à cœur de pouvoir continuer ça, et aussi de faire connaître ce que c'est, parce qu'on aime ça, quoi, et ça a du sens pour nous.
Juste le projet de loi, il doit être déposé début décembre, hein, c'est ça? Du coup, c'est vraiment maintenant qu'il faut contacter, hein, écrire, et c'est pas c'est pas dans un mois, c'est vraiment maintenant,
c'est vraiment
que
maintenant
ça se passe.
Ouais, et puis on peut aussi écrire à son maire, au ministre, à Emmanuel Macron. Il y a des pétitions aussi qu'on peut trouver, qu'on mettra sur les sites internet de Radio Ziwa. Il y a des pétitions qu'on peut signer. Voilà.
Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Puis bonne fin de journée. À bientôt pour en reparler,
merci.
Peut-être.
Ouais, avec plaisir.
Hey, the bell.
L'interview du jour.